Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Actuellement, nos études portent sur un livre de la Bible écrit par le prophète Habacuc.
Tout comme beaucoup, Habacuc vivait dans une société violente et dépourvue de justice. Or, ce livre montre comment, dans un tel contexte, le prophète Habacuc a appris à vivre par la foi et quelles sont les leçons fortes et pertinentes qu'il nous laisse aujourd'hui. Tout au long de cette série, Ian sera en compagnie de notre invité André.
Bonjour André, et merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Ian et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons commencé à réfléchir sur le sens des mots « vivre par la foi », car le verset clé du livre d'Habacuc est « le juste vivra par sa foi ».
C'est exact Ian, et nous avons appris que Dieu avait annoncé au prophète que le jour viendrait où il secourait son peuple, mais qu'avant la venue de ce temps de délivrance, celui-ci allait passer par des moments forts éprouvants. Or, la foi, c'est demeurer fidèle à Dieu, même quand l'épreuve fait rage. C'est rester convaincu qu'il enverra sa délivrance selon sa promesse et en son temps.
La dernière fois, nous avons terminé l'émission en nous posant la question. Comment le prophète pouvait-il être certain que Dieu allait tenir sa parole? Et comment nous, aujourd'hui, pouvons-nous être sûrs que Jésus reviendra un jour, comme lui-même nous l'a promis?
Voilà des questions importantes et nous devons l'affirmer. Notre foi n'est pas aveugle, sans substance, elle n'est pas vaine non plus, non. Au contraire, la foi du prophète Habacuc, tout comme la nôtre, s'appuie sur les paroles vivantes de l'Éternel. De plus, l'histoire prouve que Dieu est fidèle à sa promesse. C'est lui le souverain, il est le Tout-Puissant. Ce qu'il annonce s'accomplit.
Parlez-nous du prophète Habacuc. Sur quel fondement s'appuyait sa foi?
Au chapitre 2 du livre d'Habacuc, Dieu annonce qu'il va se servir de la nation babylonienne pour juger son peuple, car la plupart s'étaient éloignés de l'Éternel. Ils pratiquaient l'injustice et se soumettaient à l'idolâtrie. Mais Dieu déclare qu'il jugera et punira les Babyloniens à leur tour. Et c'est seulement alors que les justes connaîtront la délivrance. Au chapitre 3 de son livre, Habacuc médite sur les déclarations de l'Éternel tout en considérant l'histoire du peuple de Dieu. Ce chapitre 3, que nous n'avons pas le temps de lire, évoque en langage poétique très imagé plusieurs événements importants à travers lesquels Dieu a fait preuve de sa toute-puissance en secourant son peuple éprouvé.
Et pouvez-vous préciser quels furent ces événements auxquels le prophète fait allusion?
Habacuc évoque surtout l'Exode. Le peuple de Dieu souffrait en Égypte, il y était réduit à l'esclavage, leur maître les opprimait cruellement. C'est alors que Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, annonça qu'il jugerait l'Égypte et libérerait son peuple pour le conduire sur la terre promise en Canaan. Il s'ensuivit une lutte acharnée du Pharaon, le roi d'Égypte, qui cherchait à s'opposer à Dieu. Le Pharaon résista à la volonté de Dieu. Il refusait de laisser le peuple de Dieu partir. Mais Dieu lui démontra qu'il est véritablement le Tout-Puissant, le vrai roi des nations, le maître de tous les éléments. Dieu envoya sur l'Égypte une série de fléaux, de catastrophes naturelles, chacune prouvant que les idoles égyptiennes étaient impuissantes, que Dieu était en chemin pour délivrer son peuple. Le Pharaon finit cependant par permettre au peuple de Dieu de partir. Mais rapidement, il regretta sa décision et il se mit à les poursuivre avec son armée. C'est alors que Dieu intervint à nouveau, séparant les eaux de la mer Rouge, permettant ainsi à son peuple d'échapper à ses poursuivants. Mais quand l'armée du Pharaon commença à avancer entre les eaux séparées, alors la mer se referma, engloutissant tous les Égyptiens.
Et à part l'Exode, le prophète évoque-t-il d'autres événements dans l'histoire d'Israël?
Le prophète Habacuc évoque aussi quelques incidents marquant la période des juges. Durant cette période, le peuple de Dieu habitait en terre promise. Cependant, sans cesse, ils s'éloignaient de Dieu, tombant dans l'immoralité et l'idolâtrie. En raison de son incrédulité, Dieu le livra entre les mains de ses ennemis, les Philistins, et le peuple passa à nouveau par des temps de dure souffrance. Toutefois, Dieu envoya toujours un juge pour délivrer son peuple de ses ennemis, et souvent cette délivrance s'accomplit de façon miraculeuse, prouvant qu'elle était l'œuvre du Dieu vivant et non d'un homme.
Mais qu'est-ce qu'Habacuc a appris en se mémorant tous ces événements?
À maintes reprises, le peuple de Dieu s'est trouvé plongé dans des moments de crise, moments durant lesquels les justes devaient craindre pour leur vie et redouter que leur peuple soit anéanti. Toutefois, Dieu a toujours fini par agir en faveur de son peuple. Il a toujours fini par intervenir. Il a toujours secouru son peuple, souvent de façon éclatante, en le libérant de ses ennemis. Fort de ces observations, le prophète pouvait conclure que même si son peuple allait passer par un nouveau temps de jugement et de crise, il s'en sortirait, car une fois de plus, Dieu avait promis de venir à son secours et il était déjà en chemin. Ainsi, c'est en considérant les délivrances accomplies par Dieu dans le passé que la foi du prophète fut fortifiée malgré la venue de cet avenir si sombre.
Et que pouvons-nous apprendre de toutes ces leçons à travers l'histoire?
D'abord, les événements relatés dans la Bible sont fort importants, et en tant que tels, nous ne devons pas les négliger.
Pourquoi?
Parce qu'en les lisant, nous pouvons fortifier notre foi et tenir le raisonnement suivant. Dieu a prouvé à maintes occasions dans le passé qu'il est celui qui tient sa parole. Il est celui qui réalise ses desseins. Il demeure le maître des nations et de la nature. C'est pourquoi nous pouvons en conclure qu'aujourd'hui, il est digne de confiance. En son temps, toutes ses promesses s'accompliront. Jésus a promis qu'il reviendrait sur la terre pour mettre un terme au malheur dans ce monde et pour accueillir son peuple auprès de lui dans l'éternité. Mais comment être certain qu'un tel jour viendra? Alors, regardons à l'histoire qui se dégage de la Bible et apprenons d'elle. Jésus est déjà passé de la mort à la vie. Il est ressuscité, comme il l'avait promis avant la crucifixion. Or, la résurrection est un miracle plus spectaculaire encore que la délivrance du peuple d'Israël, alors esclave en Égypte. Jésus a vaincu la mort, et en mettant notre foi en lui, nous aussi, nous vivrons éternellement. Oui, notre foi s'appuie aussi sur les promesses que Dieu a déjà accomplies.
Merci André. Certains de nos amis auditeurs peuvent se trouver, comme le prophète, plongés dans la souffrance profondément troublée par les crises que notre monde traverse. Que voudriez-vous le conseiller?
Tout comme cela fut le cas pour le prophète, notre foi peut chanceler. Il devient alors essentiel qu'elle soit fortifiée. Il devient vital de jeter un regard en arrière et de se rappeler de tout ce que Dieu a accompli dans le passé. Dieu ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si autrefois l'Éternel a tenu ses promesses, il les tiendra tout aussi dans l'avenir. Personne n'a pu s'opposer à ses desseins dans le passé. Personne non plus ne pourra s'y opposer dans l'avenir. Dieu est souverain sur les nations et la nature, et à travers les âges, il le demeure. Imaginez que vous soyez gravement blessé lors d'un accident. Quelqu'un a pu appeler les urgences et l'ambulance est en chemin. L'attente est pénible et douloureuse, mais le secours va venir et déjà vous vous sentez plus rassuré. C'est ainsi qu'Habacuc nous rassure. Notre monde va de mal en pis, mais le secours ne tardera pas. Dieu est en chemin. Notre libérateur vient et il est tout-puissant. Alors notre foi peut devenir plus sereine. Nous avons déjà entendu parler des exploits de l'Éternel et nous savons qu'il vient.
Merci, André. Notre désir est que le Seigneur puisse fortifier votre foi et votre espérance dans un monde souvent malheureux. À présent, nous allons passer à notre méditation biblique. Nous étudions ce que l'Épître aux Hébreux nous enseigne au sujet de Jésus. Et je cède tout de suite la parole à notre invité Sébastien. Bonjour.
Merci Hélène et bonjour à tous. L'Épître aux Hébreux nous décrit la suprématie de Jésus-Christ. En effet, cette lettre dépeint toute sa grandeur et sa beauté. La gloire de Jésus-Christ apparaît dès les tout premiers versets. et Janine va à présent nous les lire.
À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême.
Ces versets dépeignent la nature glorieuse, éternelle et majestueuse du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Ils décrivent sa suprématie sur toutes choses. Or, cette suprématie est telle que nous pourrions croire que Jésus ne peut s'intéresser à nous. Car celui qui règne sur l'univers entier pourrait-il s'abaisser et remarquer des individus tels que nous ? Cette question est légitime car nous constatons que les grands de ce monde ne se préoccupent guère des soucis des gens modestes, mais Jésus est-il différent ? Une petite phrase apparaît dans le texte lu qui prouve à quel point celui qui est si élevé se soucie des petits, des humbles. Elle révèle que ce Fils éternel, Jésus, a accompli la purification des péchés. La suite de la lettre aux Hébreux nous explique en plus de détails la façon dont Jésus a accompli cette purification des péchés. Mais arrêtons-nous dès à présent sur le simple fait qu'il s'en est préoccupé et découvrons toute la profondeur de son amour. En fait, chaque homme, chaque femme a offensé Dieu par sa façon de se comporter et de ce fait, tous sont privés des bénédictions de Dieu et sont destinés à mourir. Or, aucun parmi nous n'est capable de faire quoi que ce soit pour se purifier de ses fautes. Cette tâche relève de l'impossible. Cependant, Jésus s'est proposé afin d'accomplir cette mission à notre place. Mais à quel prix ? Pour nous purifier de nos fautes, nous pardonner de nos péchés, le Fils éternel de Dieu a dû mourir sur une croix et subir le châtiment de Dieu à notre place. La beauté de Jésus consiste en cet amour inimaginable et incomparable. Jésus-Christ est mort afin que nous ne subissions pas la mort éternelle. Il a donné sa vie afin que nous vivions éternellement une amitié avec Dieu. Jésus est merveilleux parce qu'il a accompli la purification de nos péchés.
Oui, Jésus est vraiment digne de notre louange et de notre confiance. Nous en apprendrons davantage la prochaine fois. Le moment est arrivé de vous dire au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.